Donc bonjour à toutes et à tous. Il fait bon d'être ensemble, de nous réchauffer tous ensemble. Hein. On a une panne de chauffage en ce moment. Mais même sans chauffage, ou avec peu de chauffage, on est bien ensemble, n'est-ce pas? On est bien de pouvoir nous réchauffer le cœur et l'âme, et pas seulement le corps. Voilà, donc je commence par vous transmettre les salutations de notre église de Cahors. Voilà. Vous avez bien dit, transmettre bien les salutations aux frères et sœurs de l'église de Figeac. Hein. Voilà, hier. Alors, Brigitte m'a rappelé par deux fois, donc voilà, j'ai pas oublié. Et je suis content de vous les transmettre, en tout cas. Je pense bien aux uns et aux autres. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà trouvé devant un choix difficile? Alors, il y a des choix qui sont très faciles. Quelle couleur de chaussettes je vais mettre ce matin, ça, c'est pas dur. Mais il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont très importants, qui peuvent déterminer tout le cours d'une existence. Et bien sûr, le choix le plus important qu'une personne a à faire dans sa vie, bien c'est de recevoir, ou pas, si elle choisit de recevoir le Seigneur en tout cas. Et puis bien sûr, et bien après, commence une vie chrétienne, et dans la vie chrétienne, il y a aussi des choix. Des choix qui sont parfois faciles et des choix qui sont parfois difficiles. Et je vais aborder là la deuxième église de l'Apocalypse, c'est l'église de Smyrne. Une église, après avoir eu l'église d'Éphèse, on va aborder l'église de Smyrne. Et pour resituer le contexte, donc l'apôtre Jean, donc il a vu Jésus en gloire, qui lui est apparu, et Jésus qui lui a demandé d'écrire sept lettres à cette église d'Asie mineure. Alors, à la fois pour leur dire ce qui va, et pour les encourager à garder ce qui va bien, et aussi, eh bien, pour leur dire ce qui ne va pas et à changer dans ce qui ne va pas. Et ces sept églises, eh bien, sont représentatives de toute l'Église en tout lieu, à tout temps, à toute époque, pour que chaque Église puisse se reconnaître à un moment donné de son existence, quel que soit le lieu où elle se trouve. Il y en a pour toutes les églises de Jésus-Christ. Toute l'Église de Jésus-Christ, eh bien, s'il y a sept églises qui vivent des moments, qui vivent des situations particulières, à chacun de se retrouver et de voir où elle peut se retrouver dans la situation. Et puis ces exhortations qu'on trouve dans les sept lettres, sept églises, elles s'adressent non seulement à l'assemblée, mais elles s'adressent aussi à chacun d'entre nous individuellement, puisque chaque lettre se termine par ces exhortations, cette expression « à celui qui vaincra » ou « que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Donc individuellement, ce qui est dit pour les assemblées, c'est aussi pour nous individuellement, à nous examiner, et puis effectivement à garder ce qui est bon, à persévérer. Et puis, il y a des choses aussi, on a besoin de progresser. La vie chrétienne, vous savez, on sera arrivé que là-haut avec le Seigneur, hein, quand on verra le Seigneur en face. Pour le moment, on est tous en marche. Alors, après donc la première lettre à l'église d'Éphèse, vous vous rappelez la première lettre à l'église d'Éphèse, son problème c'était une église qui manquait d'amour, bien qu'elle fût une église très aimée pour le Seigneur. Et chaque nom a une signification, Éphèse voulait dire « aimable ». Eh bien, après une lettre à une église qui manquait d'amour, voici une lettre à une église éprouvée, celle de Smyrne, une église qu'on peut qualifier d'amère. En effet, les noms ayant une signification, le nom Smyrne, le mot Smyrne veut dire amer. Pourquoi Smyrne veut dire myrrhe, en fait, la myrrhe. La ville de Smyrne, ça veut dire, c'est tiré du mot, la myrrhe, qu'est-ce que c'est? C'est une résine amère, extraite d'un arbrisseau d'Arabie et d'Éthiopie, qu'on extrait par incision dans l'écorce. Et alors avec la myrrhe, on en faisait un parfum coûteux. La myrrhe servait aussi d'antiseptique pour lutter contre les maladies, et également pour embaumer les morts. Donc un parfum qui avait beaucoup d'usage. Et l'usage, eh bien sûr, a une signification. Alors, l'église de Smyrne, voyons quelle était sa situation à l'époque où cette lettre a été écrite. Au deuxième siècle, l'église était florissante. Et contrairement à l'église d'Éphèse qui a disparu, l'église de Smyrne n'a jamais cessé d'exister. Alors, la ville très ancienne s'appelle aujourd'hui Izmir, donc en Turquie. Et autrefois, elle était considérée comme la plus belle ville de l'époque. C'était une métropole, c'était un pôle scientifique et médical, et c'était aussi le deuxième port de Turquie, donc une ville importante. Et ce qui a donné le nom à cette ville, eh bien, la myrrhe, c'était, on y faisait un trafic de myrrhe qui était très important. La myrrhe venait de l'Orient, et donc on y commerçait la myrrhe, qui a donné le nom à cette ville. On appelait encore cette ville la beauté de l'Asie, la couronne de Smyrne. Donc une ville belle, une ville importante, imposante. Et cette ville, eh bien, elle a cette particularité qu'elle se plaçait toujours du côté des vainqueurs. Et à l'époque, il y avait donc l'Empire romain qui avait exercé son pouvoir sur une bonne partie de la région, hein, l'Empire romain. Et il y avait la communauté juive de Smyrne qui était nombreuse et qui était hostile aux chrétiens, aux premiers chrétiens. Ils étaient hostiles aux juifs, les juifs étaient hostiles aux chrétiens pour plaire à l'empereur. Ils étaient favorables à l'empereur romain. Et il y a un épisode qui a marqué hein, la ville de Smyrne, c'est au sujet de Polycarpe. Plus de 50 ans après la mort de l'apôtre Jean, donc Polycarpe, c'était le pasteur de l'église de Smyrne. Il a été établi par l'apôtre Jean, Polycarpe, et il a été brûlé vif à plus de 80 ans. Il était âgé de plus de 80 ans. Pourquoi ? Pour n'avoir pas voulu adorer l'empereur. Et il a été brûlé vif sous les acclamations des juifs qui lui reprochaient de n'avoir pas soutenu la religion d'État, qui était celle de l'empereur, imposée par l'empereur. Et le gouverneur romain lui avait donné l'ordre de reconnaître publiquement que César est seigneur et de renoncer à Jésus-Christ. Voilà un choix. Un choix lourd. Polycarpe a répondu. Voilà ce qu'il a dit. Je l'ai servi, donc Jésus-Christ, il a servi Jésus-Christ, je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je alors blasphémer mon roi et mon sauveur ? Quel amour pour son Seigneur. Et lorsqu'il a été menacé par les bêtes sauvages et par le feu, la tradition dit que le feu n'a pas eu d'emprise sur lui. Au début. Ils ont envoyé les bêtes sauvages. Il a quand même été brûlé. Hein. Lorsqu'il a été menacé par les bêtes sauvages et par le feu, il a répliqué « Tu me menaces d'un feu qui brûle pendant une heure et qui s'éteint peu après. Mais tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel qui est réservé aux impies. » Pourquoi tardes-tu ? Fais ce que tu veux. Il s'abandonnait complètement entre les mains de son Seigneur, n'est-ce pas ? Alors Polycarpe a été brûlé dans l'arène, et certains ont suggéré que Polycarpe, eh bien, il a été parmi les premiers destinataires de cette lettre que l'apôtre Jean a écrite à l'église de Smyrne. Il est devenu évêque en l'an 115, et on suppose qu'il a été parmi les premiers destinataires de cette lettre. Est-ce qu'il était l'ange, le messager ? Comme il est dit chaque lettre avait son messager, hein, qui était l'ange devait apporter la lettre aux églises. Est-ce qu'il était l'ange, le messager? Enfin, voilà, c'est-à-dire dans le sens de messager à qui cette lettre était adressée. En tout cas, cette lettre, certainement qu'il l'a eu entre les mains et que certainement cette lettre l'a encouragé pour ne pas renier sa foi. Et aussi, eh bien, elle est là pour nous encourager à nous aussi aujourd'hui, à nous chrétiens du 21e siècle. Elle est là, Église de Jésus-Christ. Alors, lisons dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 8 à 11. Donc, la deuxième lettre adressée à la deuxième Église, donc celle de Smyrne. Je lirai Apocalypse 2, 8, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier. Père éternel, merci encore Tu bâtis ton Église, Seigneur, par ton Fils Jésus. Et tu es fidèle et tu la bâtiras jusqu'au bout, Seigneur. Nous comptons sur toi pour terminer ce que tu as commencé. Et nous sommes, c'est vrai, dans un monde déchu. Seigneur, il y a des églises qui subissent fortement la persécution. Nous sommes encore dans une certaine aisance, même si parfois c'est plus difficile dans certains domaines en France. Mais Seigneur, nous voulons vraiment prendre ce que tu as à nous dire parce que, Seigneur, ta parole, elle est là, elle nous fortifie pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur, et face à ce que nous vivons présentement et face à ce qui est à venir aussi. Merci de nous éclairer notre cœur et notre intelligence pour recevoir ta parole et la mettre en pratique. En Jésus-Christ. Amen. De ce texte, on peut tirer la vérité suivante, c'est que il est nécessaire que l'Église soit éprouvée. Mais la victoire lui est garantie. Il est nécessaire que l'Église soit éprouvée, mais la victoire lui est garantie. C'est ce qu'on va voir en deux points. Donc, premier point, nous verrons pourquoi les épreuves sont-elles nécessaires dans la vie de chaque croyant et dans la vie de l'Église. L'ensemble des croyants constituant l'Église. Et deuxièmement, nous verrons comment traverser les épreuves victorieusement. Donc, premièrement, voyons pourquoi les épreuves sont-elles nécessaires dans notre vie, dans la vie du chrétien. Alors cette église de Smyrne, eh bien, elle est la seule parmi les sept églises, avec l'église de Philadelphie, à ne pas recevoir de reproches de la part du Seigneur. Mais il l'avertit qu'elle aura des épreuves. Il l'avertit. Et là, on peut voir encore une marque d'attention de la part du Seigneur pour son église. Il l'avertit. Préparez-vous. Alors plusieurs questions surgissent, hein. Les épreuves ont-elles uniquement été réservées à l'église de Smyrne? Ou est-ce que ça nous concerne à nous aujourd'hui? Est-ce que ça concerne l'église aujourd'hui? Est-ce que ces épreuves ont un but? Est-ce Dieu qui envoie les épreuves? Et quelles étaient les épreuves que traversait l'église de Smyrne? Eh bien, on peut déjà commencer par ça. Quelles étaient les épreuves que traversait l'église de Smyrne? Eh bien, ils étaient victimes des médisances, des mensonges, des insultes même des soi-disant juifs, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Il s'agit, je cite le verset 9, de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Alors, une synagogue, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée, une assemblée de juifs, qui sont rassemblés dans un même lieu pour prier et pour entendre la Torah, pour entendre la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et aussi pour la commenter. La synagogue, et il y a l'église. L'église, eh bien, c'est une assemblée de chrétiens. L'église, c'est pas les murs, c'est nous. C'est nous, les pierres vivantes. L'église, c'est une assemblée de chrétiens, cette fois, nous qui avons répondu à l'appel du Seigneur, et qui nous trouvons en étroite communion fraternelle avec le Seigneur, et aussi, on est appelé à être en communion fraternelle les uns avec les autres. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors, par opposition à l'Église, ces soi-disant juifs formaient une synagogue de Satan. En fait, une synagogue, c'est une assemblée. Donc, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour persécuter l'Église de Jésus-Christ. Le mot synagogue ça explique bien qu'ils se sont mis ensemble pour s'opposer ouvertement à l'Église naissante. Et pour cause, Satan, eh bien, il est appelé diable. Dans ce passage, diable veut dire calomniateur, accusateur, médisant. Ces soi-disant juifs, mais qui ne l'étaient pas, eh bien, ils ont blasphémé. Et par leur blasphème, ils ont rejeté le Messie. Et Jean, l'apôtre Jean, ne reconnaît pas à ses opposants juifs le droit de s'appeler juif, dans le sens de peuple élu de Dieu. Ils ne font pas partie du véritable Israël. Et la Bible, elle définit le vrai juif. Je vais lire Romains 2, 28 et 29. L'apôtre Paul, voici la définition qu'il donne. « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, fin de citation. Alors, souvent, on essaie de voir où est l'Église, où sont les juifs dans... L'Église n'a pas, soyons clairs, l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église allait comparer à un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc qu'est Israël, d'après Romains 11, 24. Et Dieu n'a pas rejeté son peuple, les Juifs. Et selon Romains 11, 1 et 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il réintégrera le peuple juif à la fin des temps. Il les réintégrera. Eux, c'était des soi-disant juifs. Alors, ces calomnies, donc, eh bien, elles avaient pour effet de causer à l'église de Smyrne des difficultés économiques. Parce qu'elles montaient les Romains contre eux. Et ils étaient donc très pauvres. Le texte nous dit que le Seigneur connaît leur pauvreté. Ils étaient pauvres. Et effectivement, la persécution entraîne souvent la pauvreté. Et ça se produit encore aujourd'hui, dans des pays comme l'Inde, où les gens sont mis au banc de la société. Ils perdent leur travail. Et c'est une réalité aujourd'hui. En Inde, notamment, eh bien, ils subissent des accusations mensongères. Et un exemple de mensonge aujourd'hui qui circule en Inde, eh bien, voilà ce qui est répandu comme bruit. Les chrétiens payent les gens pauvres pour qu'ils se convertissent. Alors qu'en fait, la vérité, ça s'est dit du côté obscur, je veux dire, du côté des calomniateurs. Les chrétiens payent les gens pauvres pour qu'ils se convertissent. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que les chrétiens aident les gens pauvres par amour, selon ce que recommande la Bible. Et cela peut les amener à la conversion. C'est une grosse différence, n'est-ce pas? Entre payer quelqu'un pour qu'il se convertisse et l'aider, lui donner pour qu'il se... par amour. Et là, effectivement, là, la personne va se convertir. On peut présenter la même chose différemment. Hein. Et voilà la calomnie. C'est de transformer la réalité, la vérité. L'église de Smyrne, donc, elle souffrait déjà. C'était une église déjà qui souffrait à cause des épreuves de persécution. Pourtant, ça peut sembler étonnant, pourtant Christ lui dit qu'elle va encore souffrir. Verset 10. Elle qui souffre déjà. Pas très motivant, on va se dire. Personne n'aime souffrir. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ces épreuves? Le Seigneur, s'il veut, il peut enlever les épreuves. Et pourtant, c'est le Seigneur lui-même qui lui dit, tu vas encore souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Eh bien, ces souffrances, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Au verset 10, Jésus dit, vous aurez une tribulation. Et le verbe avoir ici, il a pour sens, il veut dire avoir besoin. C'est nécessaire. Il sera nécessaire que vous ayez une tribulation. Que vous souffriez. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que le Seigneur envoie les tribulations, les épreuves? Regardez le verset 10. La réponse est dans le verset 10. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Alors, quand on a des épreuves, des difficultés, rappelons-nous que les épreuves ont toujours un but. Les choses qui nous contrarient quand les choses ne vont pas comme elles veulent. Par exemple, on a une petite épreuve, qu'il faut quand même traverser. On a une panne de chauffage chez nous. Le Seigneur l'a permis. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre à travers cette épreuve? Ça nous a poussé à sortir. Et puis on a croisé des gens dans notre village. On a parlé à des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont conseillé d'aller voir un tel. Lui, il vend encore des stères de bois parce que le bois est devenu rare. Du coup, ça nous a permis de faire connaissance avec des gens. Et en réfléchissant bien, on se rend compte que ces épreuves, elles ont un but. Et bien sûr, on n'a pas tout réglé, mais on est sur le bon chemin. Nos épreuves ont toujours un but, elles sont là pour éprouver la foi des fidèles de l'Église. À toute époque, en tout lieu, et pas seulement à Smyrne. Oui, le Seigneur met à l'épreuve notre foi, pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'était déjà le cas pour Israël. Regardez ce que la parole dit en Deutéronome 8, versets 2 et 3. Là aussi, c'est révélateur. Dieu avait déjà éprouvé son peuple en Israël. Je vais lire Deutéronome 8, versets 2 et 3. Dans l'Ancien Testament, donc. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Fin de citation. C'est l'Éternel qui avait éprouvé Israël. Alors, puisque Israël a été éprouvé en tant que peuple de Dieu, alors que Jésus n'était pas encore venu, l'Église n'existait pas encore, pourquoi est-ce que nous, l'Église, peuple de Dieu de toutes les nations, qui bénéficions de toutes ces grâces, pourquoi est-ce qu'on échapperait aux épreuves si le peuple d'Israël les a connues? Nous qui avons bien plus qu'eux, nous avons le Seigneur et toutes ces grâces qui l'accompagnent. Dieu ne change pas. Et de même qu'il a éprouvé les Hébreux dans le désert du temps de Moïse, eh bien, il éprouve aussi son Église. Une autre raison, c'est qu'au travers des afflictions, eh bien, l'Église va produire du fruit. L'Église va produire du fruit pendant ces épreuves. Voilà une raison aux épreuves. L'épreuve locale de l'Église de Smyrne peut toucher n'importe quelle Église, même la plus fidèle. Pourquoi ? Justement parce qu'elle est fidèle. Pour la fortifier en Jésus-Christ, qui a connu les pires épreuves. Les épreuves sont là pour nous fortifier dans le Seigneur. Alors oui, les épreuves atteignent les gens fidèles. Pourquoi ? Pour qu'ils deviennent encore plus fidèles et pour qu'ils manifestent leur fidélité. On peut être fidèle dans son cœur, on aime le Seigneur, ça on est convaincu. Mais quand survient la tribulation, eh bien là, on a l'occasion de manifester notre fidélité et réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Quand tout va bien, n'est-ce pas ? Tout va bien. Et quand vient l'épreuve, c'est là où nos cœurs se révèlent, n'est-ce pas ? Nos épreuves, rappelons-nous, elles ont toujours un but. Ce que confirme le verset Romains 8, 28 que je cite, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, ça veut dire aussi les épreuves. Les épreuves, elles sont nécessaires pour nous faire grandir et aussi pour laisser la vie de Christ en nous vivre pleinement, de plus en plus pleinement. Les tribulations sur l'Église vont être un moyen d'éprouver sa fidélité. Pas seulement pour la tester, mais aussi pour que l'Église fasse l'expérience de la fidélité du Seigneur, de sa présence, et pour que l'Église se fortifie dans le Seigneur. Pour que l'Église puise toutes les ressources dont elle a besoin dans le Seigneur. C'est une réalité. Les épreuves ne sont pas seulement là pour nous tester, mais aussi pour nous faire vivre toutes les grâces qui sont en Christ, qui sont à notre disposition. Pour que nous puissions en sortir, pour résister premièrement à la tentation et aussi pour en sortir vainqueur. Alors, est-ce Dieu qui envoie ces épreuves ? On l'a vu, oui. Oui, les épreuves, mais jamais les tentations. Faisons bien la différence. Dieu envoie les épreuves, mais jamais les tentations. Comment ? Eh bien, Dieu utilise même nos ennemis. Lui qui est souverain, il utilise même nos ennemis pour accomplir son plan. Il est au-dessus de Satan. Il est tout-puissant. Et il peut permettre, oui, il peut permettre à Satan d'agir pour un temps, pour un temps. Par exemple, en utilisant certains incroyants comme des instruments contre son peuple. Ces incroyants qui disent « ni Dieu ni maître », ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ils sont entre les mains du diable, ils sont manipulés par le diable. Eux qui se croient libres, ils sont esclaves du diable. C'est Satan qui est l'instigateur, qui les manipule. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Ce ne sont pas les incroyants nos ennemis, c'est le diable qui les manipule. Ils ne croient. Vous savez, une des ruses de Satan, on va dire les plus fines, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors que c'est tout, il existe. Et les non-croyants, eh bien, ils sont ses jouets et ils ne s'en rendent pas compte. Alors, les épreuves sont là pour éprouver, mais pas pour détruire. Il y a bien une différence entre l'épreuve et la tentation. Les épreuves ont un but, les tentations aussi ont un but, à l'opposé l'une de l'autre. Dieu nous envoie des épreuves dans le but de nous rendre plus forts. Et le diable envoie des tentations dans le but de nous perdre et de nous détruire. Des buts aux antipodes, deux buts aux antipodes l'un de l'autre. Dieu nous envoie des épreuves dans le but de nous rendre plus forts. Et le diable envoie la tentation dans le but de nous perdre et de nous détruire. Faisons la différence entre les deux. Dieu peut aussi envoyer l'épreuve pour châtier quelqu'un qui s'installerait dans une situation de péché. Et oui, Dieu peut reprendre son peuple. En Hébreux 12, 10, nous lisons « Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Parfois, quand on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne de Dieu, eh bien, Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas nous laisser comme ça. Et il peut nous reprendre. Oui, et il peut nous châtier en laissant faire le diable. Et en lui lâchant la bride, on peut dire, même s'il l'a vaincu, il l'a vaincu à la croix. Mais lui lâcher la bride jusqu'à certaines limites. La tribulation, elle est limitée. C'est ce qui va aider à en sortir. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait faire oublier à l'Égypte, aux Israélites, l'Égypte. L'Égypte qui symbolise le péché. Eh bien, pour nous, chrétiens, Dieu veut qu'on ait une victoire totale sur le péché. Bien sûr, ça prend toute la vie. Et le baptême, c'est vraiment ce symbole que nous mourons à nous-mêmes. Le péché est englouti dans l'eau. Comme les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, nous devons viser à ce que notre péché soit englouti. C'est aussi cette image qui ressort du baptême. Pour que nous vivions de la vie de Christ en nous. Les épreuves ont donc toujours un but. Et les épreuves, personne n'aime ça. Ça peut rendre amer. Mais l'Écriture avait annoncé ces choses. Et dans l'Ancienne Alliance, eh bien, l'huile pour oindre les prêtres était préparée avec de la myrrhe. C'était une plante amère. Vous avez la référence en Exode 30, 23 à 31, si vous voulez la référence. L'huile d'onction pour les prêtres était préparée avec de la myrrhe. Et l'amertume, eh bien, ça rappelle que ce sont des cœurs brisés que le Seigneur recherche. Quand on se rend compte que sans lui, on n'arrive à rien. On est amer, on est rancunier. Alors qu'avec lui, c'est tout le contraire. Les épreuves ont donc toujours un but. Alors, ça va nous aider à les traverser victorieusement. Voyons maintenant comment traverser les épreuves victorieusement. Comment les traverser victorieusement quand il vous arrive quelque chose que vous n'avez pas voulu? Eh bien déjà, plutôt que d'être dans le déni, acceptons-les. Elles arrivent, le Seigneur est tout-puissant, il peut les arrêter. Si elles sont là, c'est qu'il le permet, il y a un but. Déjà, de les accepter, de ne pas les nier, va nous aider à les surmonter. Quelqu'un a fait cette prière, « Seigneur, ne m'enlève pas les épreuves, ne m'évite pas les épreuves, mais aide-moi à les traverser avec toi. » Voilà quelle devait être notre prière face aux épreuves. La vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, l'exemple de l'église de Smyrne peut-il nous aider à traverser les épreuves? Revenons plus précisément à l'église de Smyrne. C'était donc une église qui était pauvre. Une église qui était pauvre matériellement. Contrairement à l'église de Laodicée, une autre des sept églises, qui elle était riche. Elle était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Et pour Smyrne, c'est le contraire. Elle est pauvre matériellement, mais elle est riche spirituellement parlant, parce qu'elle connaît le Seigneur, et le Seigneur la connaît. Et de nous rappeler que le Seigneur nous connaît, ça doit nous aider. Au verset 9, Jésus dit « Je connais ta tribulation ». Il sait tout de chaque église, de chacun de ses membres. Il sait tout de ce que tu traverses. Et ce n'est pas rien. Il connaît tout de toi. Et vous vous rappelez l'image, Jésus qui est au milieu des sept chandeliers représentant les églises, église qu'il tient dans sa main. Jésus est au milieu de son église. Il ne l'a pas laissé. Il ne nous a pas laissé au loin. Voilà donc de quoi rassurer l'Église et tout croyant de savoir que nous sommes connus de Dieu. Et quel père ne connaît pas ses enfants? Quand on demande à Dieu, mais es-tu seulement au courant des épreuves que je traverse? Oui, il est parfaitement au courant. Parfaitement. N'en doutons pas. Alors en cela, l'Église est riche. Être riche intérieurement, c'est être riche dans la foi, riche en bonnes œuvres, riche en fruits qui découlent de bonnes œuvres, riche en dons spirituels, en grâce que le Seigneur nous a dispensés, nous a donnés, riche en espérance, riche en fidélité. Voilà notre richesse. Mais surtout, l'Église est riche, pas seulement à cause des dons que le Seigneur lui a faits, mais à cause du donateur, à cause de lui, grâce à lui, l'Église est riche. Parce que le Seigneur est avec elle et pour elle. Il est lui le plus grand don que Dieu a fait à son Église. Voilà pourquoi l'Église est riche. Et puis aussi, ce qui va être un encouragement pour l'Église pour traverser ces épreuves, eh bien, c'est que le Seigneur les prévient. Quand vous voyez quelqu'un dans le danger, attention, Attention là, tu vas rencontrer une épreuve. Jésus avait prévenu Pierre qu'il allait le renier 3 fois. Le Seigneur, et il l'a rétabli après. Effectivement, ça s'est produit. Le Seigneur prévient, et de savoir qu'il nous prévient des épreuves qui sont à arriver, ça nous fortifie. Ça prouve bien qu'il s'occupe de nous. Il nous prévient pour qu'on se prépare. Pour qu'on se prépare. Pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, mais qu'on soit prêt à traverser les épreuves quand elles arriveront. Quand elles arriveront. Et puis aussi, un autre encouragement, c'est non seulement que le Seigneur nous prévient, mais aussi que les épreuves, rappelons-nous qu'elles ont un début et une fin. Les épreuves sont limitées dans le temps. Et celui qui nous dit que l'Église aura des épreuves, c'est celui qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est appelé le premier et le dernier au verset 8. Il est avant les épreuves et il est après les épreuves. Voilà un autre encouragement pour nous aider. La première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 6, nous parle aussi d'épreuves, je le lis. « Vous tressaillez d'allégresse à cause du salut à venir, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi soit éprouvée. » Là encore, ce verset, eh bien, il nous rappelle le pourquoi des épreuves et le comment des épreuves. Les épreuves ont une durée limitée, 1 Pierre 1, 6. Pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves pour que votre foi soit éprouvée. Dieu connaît la durée des épreuves. Il est avant et après toute chose. Il est le maître de l'histoire. Et c'est pour cela que dans ce verset 8, il le dit bien. Il est le premier et le dernier. Donc ce qui arrive à l'Église, il n'est pas dépassé. Alors cette épreuve ici, elle va durer 10 jours. 10 jours qui peuvent sembler longs, hein. Quand l'épreuve est dure. 10 jours, ça peut sembler très long pour quelqu'un d'éprouvé. Et ces 10 jours, eh bien, ils ont été interprétés de différentes manières, à différentes époques. Passé, présent et à venir. On peut les interpréter différemment. À l'époque, eh bien, on était donc sous les empires romains. Ces 10 jours pouvaient désigner 10 périodes de persécution sous le règne des empereurs romains. On en compte une dizaine. C'était le temps des martyrs des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont été, il y a eu des martyrs. Sous Néron, ils étaient brûlés pour servir de torche vivante. Mais rappelons-nous, oui, il y en a qui ont été martyrisés jusqu'à la mort, que quelqu'un, un enfant de Dieu qui meurt, ce n'est jamais, jamais pour rien. Et quelqu'un a dit ceci, il a dit, le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église. Le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église. Parce que Dieu permet qu'un de ses enfants meure, c'est jamais pour rien. Il est arrivé que suite à la mort de missionnaires, des églises sont nées. Des grandes églises sont nées suite à la mort d'un missionnaire qui a été tué par une tribu. Il y a plusieurs exemples comme ça. Et il y a des églises qui sont nées de ces martyrs, du sang des martyrs. Ces dix jours peuvent aussi désigner 10 années de persécution sous le règne de l'empereur Dioclétien. Voilà. Il y a eu effectivement 10 ans de persécution. Donc on peut l'interpréter différemment à diverses époques. Peut-être qu'actuellement, est-ce qu'on est dans 10 jours là où on peut dire, mais par exemple, peut-être que certains de nos frères et sœurs éprouvés disent, mais ces 10 jours, ça dure quand même longtemps. Quand est-ce que va finir ce Covid? Toutes ces restrictions. Est-ce qu'il y aura encore un autre rappel à faire après le troisième? Est-ce que troisième vaccin? Quand est-ce que ça va finir? Ça commence à durer. Quand finira la persécution des chrétiens en Inde, la persécution des chrétiens en Afghanistan? Eh bien, ce qui va aussi aider, c'est que 10 jours, ça peut paraître long, mais c'est aussi bref par rapport à une éternité de gloire avec le Seigneur. On a des exemples dans la parole de Dieu d'enfants de Dieu qui sont restés fidèles au Seigneur pendant 10 jours. Par exemple, Daniel et ses amis. Daniel, c'était des jeunes. Et si vous voulez encourager vos jeunes, voilà un bel exemple de quelqu'un, un jeune qui est resté fidèle au Seigneur. Ils ont été éprouvés pendant 10 jours, sans se corrompre dans une société corrompue. Comme quoi c'est possible d'être fidèle au Seigneur sans se corrompre? C'est possible pour des jeunes qui aiment le Seigneur. Satan aurait voulu qu'ils fassent des compromis. Oh, allez, c'est pas grave, c'est sacrifié aux idoles, mais non, ces jeunes n'ont pas voulu se souiller. parce qu'ils aimaient le Seigneur les aime et ils voulaient pas l'attrister. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 10 jours? Le texte nous dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine que tous ceux qui s'étaient corrompus. En Daniel, vous pouvez lire le récit en Daniel chapitre 1, versets 11 à 15. Ils avaient meilleure mine de manger des légumes, en mangeant des légumes, que de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils étaient bien portants. Le Seigneur a pris soin d'eux. Le Seigneur honore ce qu'il honore. Et surtout, le plus grand encouragement que le Seigneur a pour nous, son Église, qu'on soit persécuté, grandement persécuté, un peu persécuté, ou pas du tout peut-être pour le moment, le plus grand encouragement, présent et à venir, eh bien, c'est que non seulement le Seigneur connaît la situation de chaque Église, chaque membre, mais il la comprend pour l'avoir vécue. Il comprend la situation de l'Église du Seigneur parce qu'il a vécu toutes ces tribulations. Il l'a vécu. L'Église de Smyrne était pauvre, lui-même a vécu pauvrement, donc il les comprend. L'Église de Smyrne souffre, le Seigneur a souffert, jusqu'à la mort. Et c'est bien pour ça que la lettre commence par « Celui qui est mort et qui est revenu à la vie ». Le Seigneur prend bien soin de commencer sa lettre « Celui qui est mort et qui est revenu à la vie ». Ça commence comme ça. Alors voilà ce qui est ou devrait être un réconfort exceptionnel pour ceux qui sont menacés de mort. Et il y en a. Parce que Jésus prévient que les persécutions, pour certains, pourront aller jusqu'à la mort. Oui, lui qui a tous les pouvoirs, on peut permettre que certains soient persécutés jusqu'à la mort. Dire César est Seigneur, c'est incompatible avec dire Jésus est Seigneur. Il y a un choix à faire. Et les chrétiens d'alors n'avaient pas à craindre César, ni même Satan. Et regardez ce que dit Jésus. Jésus ne dit pas « Vous n'avez rien à craindre ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir », verset 10. Et il est en train de nous dire de ne pas craindre même la mort, même la souffrance liée à la mort. Personne n'aime souffrir. Tout le monde passe par la mort. Et souvent ce qu'on entend de la part de, je vais dire, de, oui, on l'a entendu de la part de non-croyants, certains ont peur de souffrir. La mort fait peur. Et certains qui sont plutôt à l'aurore de leur vie, ils ont peur de souffrir, des personnes âgées. Pourtant, le Seigneur nous dit de ne pas craindre même la mort, même la souffrance liée à la mort, pour nous qui sommes ses enfants. Ce qu'il faut craindre, par contre, c'est plutôt la seconde mort, ce que nous dit le texte. Parce que la seconde mort, elle est infiniment pire que la première mort physique. Pourquoi? Parce que la seconde mort, c'est une mort éternelle. C'est une mort qui ne s'arrête jamais. C'est une agonie éternelle. Et c'est terrible de mourir et d'être toujours en train de mourir. Ça s'appelle l'enfer. Voilà la seconde mort. C'est celle-là qu'il faut craindre. Et cette seconde mort, elle est réservée aux incroyants qui auront refusé délibérément le salut en Jésus-Christ. Délibérément. Ils sont à distinguer de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Et ceux qui l'auront refusé, ils courent à la pire des choses, la seconde mort. Et Jésus nous dit ceci en Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, 28. Aujourd'hui, avec l'avancée de la science, eh bien, l'homme de plus en plus veut maîtriser sa propre mort. Parce que les gens ont peur de souffrir face à la mort. Mais la mort atteint tout le monde. On voudrait éviter la souffrance, quoi de plus naturel, personne n'aime souffrir. Et l'homme moderne voudrait même maîtriser sa propre mort, choisir l'heure de sa propre mort. Elle dit, mais après tout, on a entendu parfois quelqu'un une fille qui a accompagné sa mère pour se faire euthanasier. Et sa mère souffrait. Mais sa fille justifiait en disant qu'elle a le droit de choisir sa propre mort, l'heure de sa mort. Pour éviter une mort avec souffrance. Chacun veut décider quand il mourra. Beaucoup veulent décider quand est-ce qu'ils vont mourir et pour avoir une mort plus douce, sans souffrance. Mais Jésus nous dit de ne pas craindre la souffrance et la mort. Pourquoi Jésus nous dit cela? Il peut se le permettre de le dire, bien sûr. Pourquoi? Parce que Jésus ne demande jamais à ses disciples quelque chose qu'il n'a pas accompli déjà lui-même. Quelque chose par quoi il est déjà passé. Jésus est né pour mourir pour nous. C'est ce qu'on a fêté à Noël, sa naissance. Vous vous rappelez le cadeau des mages. Et dans le cadeau des mages, vous vous rappelez, il y avait quoi? De la myrrhe. De la myrrhe. Les mages qui étaient venus pour l'adorer, hein, Matthieu 2, 11. La myrrhe, donc elle servait, comme parfum, elle servait à embaumer les morts. Déjà, cette myrrhe, elle annonçait la mort du Seigneur Jésus dès sa naissance. Nicodème, venu de nuit pour parler à Jésus et qui, après la mort de Jésus, eh bien, il apportera de la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. Jean 19, 39. La myrrhe, on la retrouve dans l'histoire de Jésus. On lui offrit du vin mêlé de myrrhe en Jean 15, 23. C'était pour calmer ses souffrances, mais Jésus n'en a pas pris. Pourquoi n'en a-t-il pas pris? C'était pour nous. Parce que Jésus, à la croix, portait non seulement nos péchés, mais il portait aussi nos douleurs et nos souffrances, passées, présentes et à venir. Il a souffert pour nous rendre capables de supporter la souffrance quand elle arrive, même celle qui va jusqu'à la mort, qu'il a traversée pour nous. Alors, pas besoin d'être un surhomme. Jésus est passé par là. Et il accompagne tous ceux qui souffrent. Soyons-en sûrs, parce que Jésus n'est pas resté mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et il est vivant pour accompagner et soutenir tous ceux qui souffrent pour lui. Alors, eh bien, gardons la foi. Jésus est fidèle, Dieu est fidèle, restons fidèles, loyal à Jésus, dans la vérité, sans compromis, quand il y aura des choix à faire. Même jusque dans la souffrance. On a besoin de la grâce du Seigneur, hein. Par nos propres forces, c'est pas la peine, mais lui nous donnera la grâce. Il donne la grâce au moment où on en a besoin. Gardons les yeux fixés sur la récompense donnée par le roi lui-même, la couronne des athlètes victorieux. Jésus a vaincu, il a vaincu la mort pour nous, il a souffert pour nous, et nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, rien n'arrive sans que tu ne le permettes. Et tu nous avertis, Seigneur, tu nous parles dans ta parole des épreuves qui accompagnent la vie du chrétien et qui sont normales dans la vie de tout croyant. Parce que toi, tu es le premier à être passé par là, les pires épreuves, mais tu les as vaincues pour que nous les vainquions aussi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, donne-nous de te voir, Seigneur, d'être... De te rechercher aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Seigneur, tu es tout suffisant pour nous accompagner. Je te prie pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, Seigneur. Je pense à ceux qui sont en Inde ou en Afghanistan ou en Algérie ou aux îles Maldives ou tellement dans d'autres pays, Seigneur, ceux qui sont privés de travail, de biens matériels. Seigneur, nous te prions pour eux pour qu'ils ne perdent pas la foi. Et Seigneur, pour qu'ils te voient agir au milieu même de leur détresse, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, cela est rendu possible, la victoire est possible. L'aide nous est acquise par Jésus-Christ, Seigneur. Tu as traversé tout cela pour nous rendre plus forts. Alors lorsqu'il nous arrive, Seigneur, des épreuves, dans notre travail, dans notre famille, dans la société, quelle qu'elle soit, Seigneur, qu'on s'interroge pourquoi tu les as permises et qu'elles nous fassent grandir, Seigneur, qu'on se fortifie en toi. Qu'on en sorte plus fort, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et tu as rendu possible, Seigneur, l'issue face à la souffrance et à la mort. Merci parce que les souffrances ont un début et une fin et tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Louange et gloire à toi, Seigneur. Bénis ton Église, ici et partout ailleurs où on s'assemble pour te célébrer. Au nom de Jésus, ton Fils, qui est mort pour nos péchés. Et qui a souffert pour nous et qui est ressuscité. Amen. Amen.